Pour cet épisode, j'ai le privilège immense d'accueillir Élodie Gobin. Elle est designer couleur, elle accompagne ceux qui façonnent les espaces publics d'intérêt général. Et elle aime collaborer avec les architectes et designers engagés dans l'utilisation de la couleur pour leurs projets. Elle est venue partager avec nous son expertise de la couleur au service des espaces collectifs.
Inventer, réaliser.
Effectivement, c'est effectif.
C'est de l'art ?
Du coup ?
Non, c'est du design.
Et toi ?
C'est du sirop.
C'est de l'art et du design ?
Plutôt des arts.
Non, c'est du sirop.
Des rêves imaginaires.
Ah, alors c'est comme du sirop.
C'est comme du sirop. C'est comme du sirop, le podcast du créateur d'idées qui te parle design et communication. Bonjour Élodie, comment vas-tu ?
Très bien, merci. Bonjour Annick.
Je suis ravie de te recevoir dans cet épisode. Tu es designer de couleur, tu exerces une activité de niche et tu travailles pour les designers et les architectes en créant des gammes de couleurs. Ces gammes sont sur mesure et tu les adaptes à la fonction, à l'activité, aux contraintes aussi du lieu et des espaces collectifs. Alors moi, j'aimerais qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, de la couleur, l'impact de la couleur sur nous, sur nos comportements, comment on gère la couleur dans un espace public. Mais avant ça, il y a quelque chose qui m'a interpellée parce que j'allais faire ma curieuse sur ton site et ça m'a bien fait rire. Je te cite. Coloriste, c'est un métier? C'est un truc de coiffeur, non? Designer couleur, je savais même pas que ça existait, mais tu gagnes ta vie avec ça? Alors dis-moi Élodie, c'est quoi finalement être designer de couleur et quelles sont les compétences et les qualités requises pour exercer ce métier ?
Alors le métier de designer couleur, c'est un métier, comme tu l'as dit, de niche, une spécialisation des métiers du design. Pour rappeler ce que c'est le design, on pourrait dire que de manière extrêmement raccourcie, c'est l'architecture à l'échelle des objets. Donc c'est une manière de concevoir, mais à une échelle plus petite et plus resserrée. Et le design, aujourd'hui, ça s'est beaucoup démocratisé comme une méthode de conception qui touche des politiques publiques jusqu'au design d'interaction sur des supports numériques, par exemple. La partie design couleur, en fait, c'est un raccourci de la nommer comme ça, parce que en général, le métier s'appelle designer couleur, matière et finition, parce qu'évidemment, tu ne seras pas sans savoir que la couleur n'existe pas en tant que telle, enfin rarement, sauf et encore. On pourrait juste en faire un petit raccourci dans les supports numériques. On a une forme assez essentialiste de la couleur parce que la seule interprétation qu'on a de son expression sont les écrans, les différents types d'écrans. Mais dans la majeure partie des autres cas, la couleur est matérielle, donc portée par une matière. Donc on ne conçoit pas juste la couleur, on conçoit une couleur pour une matière avec une certaine finition. Le métier de designer couleur, il est né dans les années 70, non, peut-être un peu avant, dans les années 50, avec une première génération de coloristes, et il s'est démocratisé dans les années 70 avec Monsieur Jean-Philippe Lenclos, qui a été une des figures emblématiques du travail de la couleur à deux échelles. La première, c'est le travail de la couleur pour les produits industriels, et notamment l'automobile, pour lesquels il a participé à l'intégration d'unités de design couleur dans des grosses structures comme Renault, comme Seb, par exemple. Et puis l'autre pan du métier, qui est lié plutôt aux produits et à l'architecture, c'est le métier de coloriste conseil, qui est en fait globalement le même métier, mais appliqué à l'architecture plutôt extérieure, qui consiste à produire des nuanciers conseils pour les villes, et notamment les villes classées, pour donner des grandes directives de couleurs de façade, de ferronnerie, de menuiserie, de détails architecturaux pour la rénovation et la réhabilitation de bâtiments historiques.
Ok. Aujourd'hui, quand est-ce qu'on fait appel à un designer couleur ?
Alors, le métier est finalement assez polymorphe. Il y a à la fois des designers couleurs qui sont intégrés donc à l'industrie, notamment beaucoup dans l'automobile parce que c'est un métier qui... Enfin, la voiture, c'est si complexe que ça nécessite énormément de compétences de design. Donc, il y a, je crois, une quinzaine de designers, plutôt une trentaine de designers couleurs et matières, par exemple, chez Renault, couleurs, matières et finitions. Et donc ça, c'est une première façon d'exercer en étant intégré à une entreprise industrielle. La couleur, c'est aussi souvent une compétence qui est liée au textile, d'ailleurs la plupart du temps. Et donc, de la même manière, les designers textiles ou les stylistes traitent la couleur dans leurs projets. C'est beaucoup plus intégré parce que ça fait vraiment partie des compétences essentielles du style. Et donc là, si on peut le pratiquer soit de la même façon, en intégré à une marque ou bien avec une compétence extérieure, soit spécifiquement sur la couleur, la matière ou la finition, soit par une approche de la tendance. Et enfin, il y a quelques designers couleurs, coloristes conseils indépendants, quelques agences aussi. On a quand même en France deux ou trois grosses agences qui traitent de la couleur dans tous les environnements. C'est un métier qui se traite sous plusieurs formes. Est-ce que j'ai répondu à ta question ?
Oui, tu réponds à ma question. le terme pour moi de designer couleur, en fait, je l'ai connu surtout à travers ton profil parce que moi, je n'utilisais pas du tout ce terme-là. J'utilisais plutôt, ou j'entendais plutôt le terme de coloriste, colorimétriste, voilà, ce genre de terme-là. Alors, c'est intéressant de savoir qu'on peut parler de designer couleur. Ce qui est intéressant, c'est d'employer le mot design, parce qu'on sait que le design est contraignant. C'est-à-dire qu'on crée, on innove, on imagine en fonction du support sur lequel cela va être appliqué, en respectant une certaine fonctionnalité. Et c'est là où j'ai envie de t'emmener, parce que nous, on va parler de la couleur, mais on va parler de la couleur dans les espaces. C'est ton dada, c'est ton milieu, toi, t'es vraiment un petit poisson qui nage là-dedans. Et j'aimerais que tu nous en parles. Pourquoi la couleur pour toi? Qu'est-ce qui t'a emmené sur cette activité? Pourquoi t'es devenue designer couleur? Et voilà pourquoi tu as monté ce studio à destination de la couleur auprès des professionnels.
Alors d'abord, je trouve ça intéressant ce que tu as dit sur le fait de souligner l'association de design et de couleur, parce que c'est le cas de la plupart des designers couleurs, mais dans ma pratique, c'est en tout cas dans ma vision d'aborder mon métier, ça fait vraiment sens. En fait, moi, je suis passée par un chemin de design produit, création industrielle dans mon parcours.
Ok.
Et donc, cette notion de la contrainte, de l'usager, de la technicité des choses fait vraiment partie de l'ADN de ce à quoi j'ai été formée pendant 7 ans. Et donc, ça a une place vraiment très importante. La démarche du design qui s'empare du champ de contraintes pour traiter un projet, c'est vraiment aussi comme ça que je travaille la couleur. Ce qui m'a amenée à ça, c'était un long cheminement d'abord. Le déclencheur, c'était la rencontre avec Jean-Philippe Lanclos, dont je te parlais tout à l'heure, qui a fondé l'atelier 3D couleurs à Paris et qui m'a reçue de manière extrêmement bienveillante en stage en 2004. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier de... la possibilité de traiter la couleur comme un sujet à part entière dans le champ du design produit. Et donc, c'est avec cette possibilité qui, en fait, faisait très écho avec ce qui m'intéressait dans le design produit, c'est-à-dire rendre service. C'est avec cette possibilité que j'ai continué à cheminer dans mes études de création industrielle en rentrant en 2005 à l'ENSI Les Ateliers avec cet objectif de devenir designer couleur et matière.
Okay.
Et donc, toute ma scolarité, j'ai cheminé avec des apprentissages, des apports théoriques et aussi un nombre d'expériences professionnelles successives avec l'objectif de comprendre, de mieux comprendre comment est-ce que la couleur était employée dans différents métiers connexes au métier du design. La tendance, le marketing, les maquettistes, la création graphique, pour en fait embrasser la globalité du sujet le plus possible.
Okay.
Et depuis que je suis sortie de l'école en 2010, je n'ai quasiment traité que de ce sujet dans toutes mes expériences professionnelles, c'est-à-dire que ce soit de la communication graphique, parce que j'ai fait un petit détour par la communication graphique, jusqu'à l'espace public, ça a toujours été par le prisme de la couleur que j'ai travaillé. Et donc, en 2020, c'était naturel de continuer dans cette direction parce que c'est un chemin qui est tracé depuis déjà longtemps.
D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, tu as d'abord commencé par le design industriel, design produit, avec toujours cet objectif de travailler sur la couleur. La couleur, c'est le liant en fait, qui t'a emmené tout doucement vers les espaces. C'est ça, hein ?
Exactement.
Donc c'est en 2020 que commence ton histoire des espaces et de la couleur ?
En fait, elle avait commencé avant, elle a commencé en 2014, quand j'ai commencé à travailler dans les espaces publics.
Okay.
C'est vrai que le cheminement du produit à l'espace, il s'est fait par les expériences professionnelles, mais comme c'est souvent le cas...
Les opportunités qui se présentent.
Hein. Voilà, qui sont un peu différentes. Et donc, ça a commencé en 2014, alors que j'étais au Mexique, et où j'ai eu l'opportunité de rejoindre une entreprise qui produisait les résines pour le marquage routier.
Ok.
Alors, c'est plus niche que ça, ça n'existe pas. Mais en fait, il s'est trouvé que...
Mais pourquoi tu es allée au Mexique sur ce genre de secteur ? Dis-moi tout.
Alors, je suis d'abord partie au Mexique, et puis ensuite, on m'a dit... Il y a une entreprise qui cherche quelqu'un pour formuler des couleurs, pour faire des équivalences.
Wow.
Donc, je me suis retrouvée dans un petit laboratoire à mélanger des pigments de fou pour faire des couleurs.
Génial.
Ce qui était quand même vraiment très chouette. Et puis, de fil en aiguille, le PDG de l'entreprise a souhaité m'intégrer au projet de conception qui était à destination du gouvernement de la ville de Mexico. Pour travailler des espaces destinés à la sauvegarde des espaces piétons dans la ville de Mexico. Pour te reposer un tout petit peu le contexte, en fait, Mexico, c'est une ville qui est autoroutière. Encore aujourd'hui, je ne suis pas retournée depuis longtemps, mais où y a la présence de l'automobile est très importante et où les espaces pour les piétons sont assez minoritaires, d'abord parce que les gens marchent peu et ensuite parce que, peu importe où il y a un interstice, les voitures se mettent.
Bah, c'est vrai qu'on a l'image de cette ville avec des grosses voitures énormes, super larges, un petit peu à l'américaine aussi. Il y a ce côté un petit peu salsa, Cuba aussi qu'on entend derrière. Moi, j'ai cette image un petit peu idéale, tu vois, de Mexico. Et on entend bien ce bruit. On sent presque l'essence quand on t'écoute parler. Et j'imagine, oui, l'emprise de la voiture dans l'espace de la ville. Ouais.
Donc, il y a peu d'espace pour les piétons. Et pourtant, il y a des piétons. Souvent, c'est en plus les gens les plus défavorisés qui n'ont pas forcément accès à une voiture. Et donc, en fait, les espaces piétons, c'est un peu, c'est comme un peu marcher au bord de l'autoroute, quoi. Et il y avait cette volonté de revaloriser certains espaces en les appelant parcs de poche, donc en 2014, en traitant le sol par des marquages graphiques et colorés qui se mettaient en contraste avec le reste de la voie publique. Et il y a quand même une forme de respect pour l'autre et pour la différenciation des espaces, et donc c'était un moyen pour eux d'essayer de refaire venir des commerces ambulants, en tout cas de leur donner un espace et de recréer des micro-vides quartiers comme ça, avec ces espaces-là. Et donc il y a eu un projet sur lequel j'ai travaillé de A à Z pour un de ces parcs de poche dans un quartier assez défavorisé de la ville de Mexico, où il y avait un square pour les enfants, mais qui n'avait pas été complètement terminé parce qu'il y avait des grands cercles sur lesquels ils avaient prévu de jouer aux billes, et puis en fait ça ne marchait pas, et puis ils n'avaient pas la bonne peinture. Et donc il m'a été demandé de travailler sur l'investissement de ces cercles.
Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis qu'ils n'avaient pas la bonne peinture. Est-ce que tu peux détailler un peu? Parce que du coup, tu abordes un peu le sujet, il y avait des cercles, et ils n'avaient pas la bonne peinture. Pourquoi pour toi n'était pas bonne cette peinture?
Alors, c'est parce que dans l'espace public, il y a deux types de peintures possibles aujourd'hui qui offrent une faible possibilité de pigment.
D'accord.
Enfin, qui a peu de choix de couleurs. Et en plus, qui a une durabilité et une fragilité au soleil qui est plus importante. Je disais qu'ils n'avaient pas choisi la bonne peinture, c'est plutôt que la peinture qu'ils avaient choisie n'était pas compatible avec celle que nous, on utilisait.
D'accord.
Et donc, ça a été un chantier pour retraiter cette zone.
C'était plus par rapport à la technicité du produit que par rapport au choix de la couleur qui a été défini. Okay.
Après, le choix de la couleur, il avait été choisi par les possibilités de cette peinture, justement, où globalement, comme dans la 99,99% des couleurs dans l'espace public, on reste sur du jaune, bleu, rouge, vert, blanc. Et c'est normal, c'est ce qu'on utilise. Et donc, l'idée de ce parc, c'était de... D'abord, j'ai travaillé avec une pédagogue parce que le parc était à côté d'une école et on voulait que le parc soit le prolongement de la cour de récréation et que ce soit un espace extérieur où les enfants puissent continuer d'apprendre aussi, donc une extension de l'école. Et on a réfléchi aussi, enfin, ce qui était important, c'est qu'il n'y ait pas besoin de mode d'emploi. L'espace public, ça quand même, ça impose de pouvoir avoir une appropriation immédiate de la part des enfants. Et donc, il fallait, moi, m'acculturer à quels sont les jeux traditionnels pratiqués dans la cour de récréation au Mexique. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a créé cette collaboration. Et qu'est-ce qu'on peut proposer qui soit adapté à différents aux âges des enfants qui sont à l'école. Et d'un point de vue créatif, en fait, je me suis, pour traiter le motif et la couleur, je me suis inspirée du contexte, parce que c'est comme ça que je travaille toujours la couleur. Je me suis inspirée du contexte. Donc, c'était un site qui était juste à côté de l'ancien village olympique des JO de 68.
OK.
donc avec une histoire assez forte, et c'est en reprenant le logo des JO de 68, donc cet effet de cercle concentrique, que j'ai créé les motifs. Et pour la couleur, je me suis appuyée sur les espaces sportifs existants, et notamment un gymnase vraiment dans son jus, mais avec des repasses de peinture incroyables, avec toute une expression autour des bleus que j'ai décidé d'utiliser dans le projet comme point de départ. Et cette première expérience au Mexique qui a été le point de départ du changement d'échelle, de traiter la couleur, parce qu'on parlait de l'espace, ouais, dans le champ de l'espace public, avec une échelle plus importante que l'échelle du produit et de l'objet, et donc qui m'a permis aussi de rentrer dans le sujet de l'architecture, du patrimoine architectural, et de l'essence des lieux, et de commencer à avoir aussi une réflexion sur le cheminement dans un espace, etc. Donc le point de bascule, il a été à ce moment-là,
okay,
dans ma pratique, entre l'échelle du produit et l'échelle de l'espace.
D'accord. En fait, c'est à ce moment-là où quand tu as voulu mélanger la partie culturelle, fonctionnelle et mise en application, c'est là pour toi qu'il y a eu un véritable déclic et tu t'es dit, il y a quelque chose à faire dans l'espace urbain tout de suite. C'est l'espace public qui t'a tout de suite interpellée. Tu t'es dit, ouais, je veux faire quelque chose là-dedans.
En fait, je me suis rendu compte que l'espace public, c'était un environnement dans lequel on pouvait faire sens avec la couleur. Mmh. Et on pouvait entrer dans une dimension plus sociale des projets par la couleur. Et ça, c'est quelque chose autour duquel je tournais, parce que j'avais été assez chahutée pendant mes études par la couleur, c'est extrêmement superficiel, la couleur, c'est de la tendance, la couleur, c'est pour vendre.
D'accord, la couleur donc, était associée à la déco durant tes études, en fait, on n'y voyait pas une fonction particulière ?
Voilà, plutôt.
Okay.
C'était plutôt ça le sujet, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et donc, cet environnement public, ça me permettait de me dire, ok, on peut faire de la couleur fonctionnelle, et il y a déjà de la couleur fonctionnelle dans l'espace public, mais on peut l'augmenter. Et en plus, on peut rendre service par un moyen qui est assez simple, au final, la peinture et la couleur, pour le plus grand nombre, en fait. L'espace public, c'est quand même le moyen de donner accès à une quantité de personnes extrêmement large.
Ouais, et ça permet en fait aussi de canaliser l'information, ou en tout cas de la signaliser par des points de couleur, mais on en reviendra, on en parlera un petit peu plus tard. Pour moi, je vois qu'il y a donc ce point de bascule qui se fait pour toi au Mexique, à Mexico. Là, il y a une petite révélation où tu dis, bon, je vais pouvoir mettre en application ce que j'avais dans mon intuitif, c'est-à-dire faire de la couleur véritablement un outil pour la communication visuelle dans les espaces publics et urbains, puisque du coup, à partir du moment où la couleur prend sa fonction de guide, on peut vraiment l'utiliser comme outil et support de communication au sens large du terme, puisque ça devient un point de partage. Après Mexico, qu'est-ce qui se passe pour toi ? Dis-moi.
Après Mexico, je reviens en France. En fait, je reviens en quelque sorte. Il y avait quand même cette frustration de « Ok, j'ai découvert l'espace public et ça m'intéresse, mais comme tu t'imagines, dans tous les parcours de vie, il y a des temps de digestion, il y a ce que tu sais dire 10 ans après et il y a ce que tu vis dans le moment. » Et dans le moment, je vivais quand même cette frustration de m'être éloignée du produit et de l'objet, mm-hmm, parce que c'était par là que j'avais cheminé, et j'ai eu l'opportunité de rejoindre une entreprise que tu connais sûrement qui s'appelle Fairmob, qui fait,
oui,
du mobilier de jardin.
Comment ne pas connaître Fairmob ?
Qui est une très belle entreprise française qui a parmi ses piliers et ses valeurs le travail de la couleur. Et donc, j'ai eu la chance de rejoindre une double mission de design mobilier et de design couleur. Mm-hmm. Et c'était un excellent moyen de revenir et de se recentrer sur le produit après cette expérience assez folle au Mexique. Et puis, une chose en amenant une autre, en fait, ce retour au produit, je l'ai beaucoup aimé, mais j'étais dans une entreprise familiale, industrielle, qui nourrit son propre bénéfice. Et donc, même si j'avais trouvé un moyen de traiter la couleur pour qu'elle elle s'adresse aux usagers, il manquait quand même un peu la dimension sociale et la dimension plus publique du travail de la couleur dans cette entreprise. Après, c'était incroyable d'un point de vue maîtrise de la technique, compréhension des process industriels, des contraintes, de la logistique, voilà. C'était une expérience, une nouvelle. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que ça m'a apporté une nouvelle casquette technique.
Et en plus, tu travaillais sur des produits destinés à l'extérieur.
Exactement.
Donc, tu gardais cette partie extérieure finalement
tout à
un
fait.
Petit peu à côté de toi.
En effet, tu as raison, ce lien de contrainte de durabilité de la couleur. Mmh. qui fait aussi partie, j'en parle assez peu, parce que ça fait partie de mon ADN depuis toujours. Mon diplôme, c'était autour de la seconde vie des matériaux. Ça fait partie de mon ADN, j'en parle pas parce que c'est hyper intégré, mais la durabilité de la couleur, ça fait partie des sujets qui m'intéressent depuis longtemps. Et donc, t'as raison de le souligner. C'est ce lien entre l'extérieur, ça impose d'avoir une pérennité de la couleur.
Du coup, après Fairweb, c'est là que tu as décidé de monter ton studio.
Exactement.
C'est là que Elodie rentre en jeu dans l'espace public avec la couleur. Chouette.
Exactement. Exactement. C'est à ce moment-là que je fonde le studio en 2020.
C'est Studio Bingo, c'est ça?
Studio Elodie Bingo, oui, parce qu'entre-temps, il y a un autre Studio Bingo qui s'est monté.
On a rajouté le prénom. Super.
Non, je ne l'ai pas rajouté, il était déjà là dès le début.
Ah bon, ouais,
mais
d'accord.
Le studio Elodie Bingo est né d'une forme de jeu de mots avec mon nom de famille qui avait été trouvé par un ami il y a longtemps.
Okay.
Et donc, j'ai eu la chance très vite d'être engagée sur un projet grâce à une association lilloise qui s'appelle Récréation Urbaine et qui fait de la concertation citoyenne autour des projets pour les espaces publics et les enfants, sur un projet d'aire de jeu tout à côté d'une école en construction. Et c'était un très bon tremplin parce que ça m'a permis déjà de rencontrer cette équipe qui est vraiment exceptionnelle et puis de rentrer dans la couleur par un biais que j'avais pas encore complètement exploité parce qu'au Mexique c'était difficile, c'était ma volonté mais c'était très difficile de travailler avec le voisinage pour plein de raisons mais c'était difficile de le poser. Et donc là, c'était l'occasion de passer par la concertation et de travailler, de traiter la couleur grâce aux futurs usagers.
Alors, je vois que ça se reproduit un petit peu. T'aimes bien aller vers l'espace des enfants, sur des espaces pédagogiques, éducatifs. Et moi, ça va me permettre un petit peu de faire la transition sur la couleur, la teinte et l'impact de la couleur sur nous. Mais avant d'aller un petit peu plus loin sur nous, notre enfance, comment nous emmagasinons la couleur, parce que j'ai vraiment envie qu'on aille sur ce sujet-là toutes les deux. J'ai vu sur ton site que tu distinguais la couleur de la teinte. Et j'aimerais savoir pourquoi cette différenciation et comment comprendre que la couleur est différente de la teinte. Est-ce que tu peux nous faire une petite parenthèse là-dessus?
Je vais essayer de faire une petite parenthèse.
Oui, une petite, s'il te plaît. Je rajoute une contrainte.
En parallèle de la création du studio, j'ai postulé pour donner des cours de couleurs dans une école de design à Lille qui s'ouvrait avec une super équipe pédagogique. Et donc, ça a posé la question de la vulgarisation de la couleur, de comment est-ce qu'on l'enseigne, de comment est-ce qu'on simplifie aussi sa compréhension pour que ça devienne accessible à des étudiants qui arrivent en première année, qui n'ont aucune, très peu, pour certains quelques-unes, mais qui ont globalement peu de connaissances sur le sujet. Et un des moyens qui m'a paru le plus simple, c'est de vraiment classifier le plus spécifiquement possible les choses. C'est-à-dire que, évidemment, dans la couleur, chaque domaine a un peu son langage à lui, ses propres termes, notamment une des caractéristiques de la couleur dont je parlerai après, la saturation, et on peut lui donner plein d'autres mots. Mais pour t'expliquer, en fait, auprès des étudiants, j'ai essayé de différencier une couleur qui serait une forme de tout, de la teinte qui est en fait une des caractéristiques qui permet de former cette couleur. L'idée, c'était d'expliquer grâce à ça que la teinte, c'est donc la longueur d'onde qui est émise et qui est reçue par l'œil et que donc la teinte n'inclut pas des valeurs de clarté ou des valeurs de saturation. En réalité, la teinte, c'est la couleur de la couleur.
La teinte, c'est la perception que nous avons de la couleur que nous voyons. C'est ça, si je vulgarise un petit peu.
Non, pas tout à fait. La couleur, c'est la couleur de la couleur. C'est-à-dire que n'importe laquelle des couleurs que nous voyons a une longueur d'onde qui provient du spectre des couleurs, c'est-à-dire des couleurs de l'arc-en-ciel.
Oui.
Donc toutes les couleurs peuvent être classées soit dans un jaune, soit dans un vert, soit dans un bleu, soit dans un violet, soit dans un rouge, soit dans un orange, y compris les kakis, les marrons et les roses.
Oui.
Et donc c'était un moyen pour expliquer aux étudiants tous les liens qu'il pouvait y avoir entre les couleurs et toutes les associations qu'on pouvait faire si on revenait à l'essentiel de dans quelle famille de couleurs je me trouve. Donc la teinte, c'est une des trois caractéristiques de la couleur. Bien sûr que dans le langage courant, on emploie teinte pour dire couleur, mais en tout cas, dans cette forme de vulgarisation, la teinte, ce serait la couleur de la couleur, qui peut être augmentée de sa clarté, donc de sa luminosité, et de sa saturation, donc de son intensité, du terne au très vif. Alors, c'est une distinction assez personnelle.
Très fine.
et très fine, mais qui...
Mais super intéressant. Et du coup, en mots simples, pour que les auditeurs qui nous écoutent comprennent un petit peu mieux, j'aimerais qu'on puisse bien définir le plus simple possible pour que tout le monde comprenne ce qu'est une couleur et ce qu'est une teinte.
C'est pas facile, hein. Normalement je mets une heure pour l'expliquer.
Ah, je suis désolée, c'est vrai que je te demande en quelques mots, c'est pas évident.
Non, et sans visuel c'est pas facile, mais la couleur c'est le global, c'est donc ce qu'on voit, ce qu'on perçoit. La teinte c'est une des caractéristiques qu'on pourrait décrypter d'une couleur. La définition qui me semble la plus juste de la couleur, c'est une construction complexe du système visuel grâce à la lumière dans un contexte.
Ok.
C'est pas très simple, mais je vais vulgariser. En fait, la couleur n'existe que s'il y a de la lumière, s'il y a un système de captation qui est l'œil, un système de traduction qui est le cerveau, et qui va être influencé par le contexte.
Merci Elodie, là on comprend tout, c'est parfait.
Ok, je m'arrête là.
C'est super, c'est exactement là où je voulais t'en aller, génial. Merci infiniment.
Il faut dire que Elodie a été plus que généreuse dans la richesse de nos échanges et la qualité aussi de nos échanges. J'ai donc tout naturellement segmenté l'épisode en deux parties. Si tu veux en savoir plus sur l'impact et l'influence que la couleur peut avoir sur nous, je t'invite de suite à écouter la deuxième partie. J'ai adoré partager cet épisode avec toi. Pour soutenir C'est comme du sirop, fais du bruit sur tes réseaux sociaux et partage l'épisode. Je te donne rendez-vous les 2e et 4e vendredis du mois. En attendant, je vais me servir du bon sirop bien frais. À bientôt, bisous bisous.